Le rendez-vous d'Haïti et des Amériques, c'est tout de suite avec Baptiste Coupin. Bonjour Baptiste.
Bonjour Xavier, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous des Amériques et d'Haïti. Au sommaire de cette édition, cette belle initiative d'artistes haïtiens. Trois des plus grands chanteurs du pays se lancent dans une tournée d'un mois pour lutter contre la violence. L'opération s'appelle Les Voix d'Haïti pour la paix. On retrouvera notre correspondante à Port-au-Prince dans un instant. La quatrième édition du Congrès des écrivains de la Caraïbe, c'est en ce moment à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Le thème de réflexion cette année, voyage, migration et diaspora dans les littératures caribéennes. Harim Lipold nous rejoindra pour la revue de presse des Amériques. Et puis comme tous les jours, le journal de l'Outre-mer avec nos confrères d'Outre-mer Première. Lutter contre la violence en Haïti grâce à la musique, c'est pour répondre à ce noble objectif qu'un projet baptisé Les Voix d'Haïti pour la paix, initié par le chanteur James Germain, vient de voir le jour. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien d'une grande caravane qui doit sillonner tout le pays avec trois chanteurs vedettes à son bord, dont le célèbre guitariste Beto Baoba. Au programme donc des concerts placés sous le thème de la non-violence, mais aussi des ateliers avec les jeunes artistes. La tournée a débuté hier soir à l'Institut français de Port-au-Prince. Nous retrouvons là-bas notre correspondante Amélie Baron.
Beto Baoba, Emeline Michel et James Germain ensemble sur scène. L'affiche est belle et la cour de l'Institut français de Port-au-Prince a été envahie par un public ravi. C'est le chanteur James Germain qui est à l'initiative des Voix d'Haïti pour la paix.
C'est un projet que j'ai commencé à mon retour du Mali. Parce qu'au fait, en Haïti, il y a tellement de jeunes talents qu'on a envie de les vraiment supporter, encadrer. Alors c'est comme ça que j'ai fait ce projet. Et qui, c'est la suite de ce projet et qui est maintenant Voix Haïti pour la paix et par le soutien de Nations Unies et l'UNESCO et tous ses partenaires qui sont avec nous.
Haïti n'est pas en guerre, mais il y a un réel souci de violence. Comment vous voyez la situation?
Effectivement, il n'y a pas la guerre chez nous, mais je crois que la violence, c'est un aspect assez important quand même. Quand on voit comment ça se passe dans des régions, dans des coins où les gens n'arrivent pas à vivre ensemble, ils s'entretuent pour les histoires politiques, et au fait, on n'arrive jamais à se mettre ensemble parce que telle partie veut être meilleure, et l'autre partie aussi. Du coup, il y a toute cette violence-là qui existe entre nous, qui fait que le pays n'évolue pas. Et je pense qu'on ne peut pas rester caché derrière ça. Il faut vraiment en parler. Et moi, en tant qu'artiste, c'est de justement aller à la rencontre de tout ça, de parler aux gens, de faire sentir qu'il y a une urgence de se remettre ensemble.
Sa voix a marqué des générations d'Haïtiens et continue à séduire le public. Si elle vient régulièrement dans le pays, Emeline Michel vit à New York, un choix subi, comme elle le dit. Aussi, elle n'a pas hésité une seule seconde à participer à cette caravane pour la paix.
C'est comme un cadeau qui nous est offert de nous retrouver, de faire un travail qui nous tient simplement à cœur. Parler de paix chez nous, alors même qu'il y a beaucoup qui ont des opinions différentes, que Haïti n'est pas en guerre, je suis navrée de le dire que les cas qu'on voit tous les jours nous incitent à croire que c'est pas encore la paix, c'est loin d'être la paix.
C'est important en tant qu'artiste justement de contribuer à cette paix qui attend en Haïti.
Oui, puisqu'on l'a, c'est notre quête personnelle aussi, comme je le dis, mais vraiment très sincèrement, que des fois j'aurais aimé être basé chez moi pour repartir, mais j'ai un fils qui a 14 ans, est-ce qu'il ne peut pas marcher comme il marche dans les rues de Manhattan, hein? Écoute, c'est une question qui se pose et qui me réveille, parce que je caresse cet Haïti d'antan où on avait encore la flexibilité de faire des soirées qui restaient à 2h, 3h du matin, et de sentir qu'on pourrait conduire tranquillement rentrer chez nous. C'est une quête, cette paix-là. Elle est désirée non seulement pas seulement par les Haïtiens vivants en Haïti, mais aussi les artistes du pays. Pour moi, c'est vital.
C'est une douleur de vivre à l'étranger en tant qu'Haïtienne?
Ça le devient. m'installer chez moi et de me réveiller avec le chant du coq et puis vivre en Haïti, pour moi, c'est un rêve que je caresse et qui, en fait, je souhaite très vite prendre la forme et sera une réalité.
Avec des concerts et des ateliers à Jacmel, Aquin, Jérémy, Cabaret ou encore Gonaïve, la tournée Voix d'Haïti pour la paix va parcourir le pays jusqu'au 17 mai. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Que peut-on lire dans les journaux aujourd'hui? Harim Lipold vient de nous rejoindre pour la revue de presse des Amériques. Bonjour Harim.
Bonjour Baptiste.
Alors on débute avec les États-Unis où vient de se nouer une alliance entre les républicains du Congrès et le président démocrate Barack Obama.
Oui, du coup cela fait la une de plusieurs quotidiens, à commencer par le New York Times. Les républicains et démocrates du Congrès américain se sont mis d'accord hier jeudi pour donner des pouvoirs accrus à Barack Obama dans la négociation des accords de libre-échange avec l'Union européenne et 11 pays de la région Asie-Pacifique. Ce compromis ouvre la voie à un conflit qui oppose le président, pour une fois allié des républicains, à une partie de son propre camp, les démocrates, écrit le New York Times. Selon le journal, la négociation des deux accords commerciaux sera l'une des batailles les plus dures que Barack Obama aura à mener durant les 19 mois qui lui reste à la Maison-Blanche. Une partie de son électorat, des militants démocrates, des syndicats ou des organisations latino, se montre hostile à de nouveaux accords de libre-échange car ils estiment que les accords commerciaux déjà conclus dans le passé n'ont pas eu l'impact espéré et promis sur les emplois, conclut le New York Times.
Le monde selon Jeb Bush, c'est à lire dans le Washington Post.
À quoi ressemblerait la politique étrangère des États-Unis si l'ancien gouverneur de Floride était élu président? Eh bien, d'après le Washington Post, elle ressemblerait étrangement à celle de son frère et ancien président George W. Si Jeb Bush occupait la Maison-Blanche, écrit le quotidien, il n'y aura pas de rapprochement entre les États-Unis et Cuba. Un président Jeb Bush renforcerait les sanctions à l'égard de l'Iran et demanderait à l'OTAN de déployer plus de troupes en Europe de l'Est pour faire contrepoids à la Russie de Vladimir Poutine. En fait, Jeb Bush s'inscrit complètement dans l'approche géopolitique de son frère. Ce faisant, il exprime une opinion largement répandue dans l'establishment républicain, reconnaît le Washington Post, mais en copiant la politique étrangère de son frère, il risque aussi de décevoir pas mal d'Américains qui reproche justement à George W. Bush d'avoir lancé deux guerres.
Mais pour le moment, Harim, Jeb Bush n'est même pas encore candidat à l'investiture de son parti pour l'élection présidentielle.
Oui, et un nouveau sondage montre qu'il a quelques soucis à se faire. L'ancien gouverneur de la Floride est devancé dans son fief par le sénateur Marco Rubio. Marco Rubio qui a annoncé sa candidature en début de semaine. D'après une enquête réalisée parmi 400 militants républicains, 31% des personnes interrogées enverraient bien le jeune américano-cubain dans la course à la Maison-Blanche contre 30% en faveur de Jeb Bush, Baptiste.
Un autre sondage qui peut surprendre, Harim, de moins en moins d'Américains sont favorables à la peine de mort.
Oui, c'est à la une du journal canadien La Presse. Les Américains sont toujours en majorité favorables à la peine capitale, mais les opposants gagnent du terrain. D'après une étude du Pew Research Center, 56% se déclarent aujourd'hui en faveur de la peine capitale. Ils étaient encore 62% à partager cet avis il y a 4 ans. Alors, comment expliquer cette baisse? Eh bien, selon La Presse, ce sont les électeurs démocrates qui ont changé d'opinion sur ce sujet et qui ne sont plus que 40% à soutenir la peine de mort contre 56% en 2011. Le quotidien rappelle qu'au total, 29 États américains et la capitale fédérale, Washington, ont aboli la peine capitale ou ne l'utilisent plus. Hier, d'ailleurs, le Parlement du Nebraska, dominé par les républicains, a voté contre la peine de mort, mais cette loi ne passera probablement pas car le gouverneur a promis d'utiliser son veto.
Enfin, pour terminer, Harim, direction le Venezuela où le déjeuner en ville coûte de plus en plus cher.
Oui, c'est une information publiée dans le journal El Nacional, preuve de la crise économique que traverse le pays. Le prix d'un déjeuner a presque doublé en un an dans la capitale Caracas, Baptiste.
Harim Lipold pour la revue de presse des Amériques. Direction Pointe-à-Pitre en Guadeloupe où s'est ouverte hier la 4e édition du Congrès des écrivains de la Caraïbe. L'événement réunit tous les 2 ans plus de 50 poètes, chercheurs et romanciers autour des échanges culturels et idéologiques entre les îles et le continent américain. Et entre les langues, le français, l'espagnol, l'anglais et le créole. Le thème de réflexion cette année, voyage, migration et diaspora dans les littératures caribéennes. Compte rendu avec Conchita Penilla.
Cette année, pour la première fois, on met en avant les lettres de cette île française. Avec un invité d'honneur, le poète Daniel Maximin, et un hommage spécial à la romancière Maryse Condé. Néanmoins, ce n'est pas seulement le rendez-vous littéraire des îles, avec les écrivains des grandes et des petites Antilles, avec une forte présence d'Haïti. C'est aussi un moment privilégié de rencontres entre l'Amérique insulaire et l'Amérique continentale. C'est le cas de Cuba et de Venezuela. Ce qui peut donner lieu à un dialogue entre l'écrivain, romancier et essayiste vénézuélien André Bansard et l'ex-doyen de la faculté d'art et de lettres de l'Université de La Havane, critique et écrivain, Ariel Camejo.
Oui, bien sûr. En fait, il y a 3 types de migration. Il y a la migration vers la Caraïbe, que ce soit en provenance d'Afrique, d'Asie également, puis de Chine, de l'Inde, etc. Il n'y a plus forcément d'Europe. Il y a l'émigration intérieure de la Caraïbe, d'une île à l'autre. Et là, toute l'histoire de la Caraïbe, c'est l'histoire de ces migrations-là. Et puis l'émigration, les gens qui quittent la Caraïbe, les îles de la Caraïbe, et qui pour des raisons, soit économiques, soit politiques ou autres, sortent de la Caraïbe et puis essaiment dans un certain sens, parce qu'ils vivent alors, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France ou autre part, qui vivent finalement leur caraïbénité, si on peut dire, dans ces pays-là, quoi.
Pour André Bansard, le thème des migrations est fondamental dans la production romanesque caribéenne.
Bien, je pense que par exemple, le voyage en Venezuela de médecins, d'éducateurs n'entrait pas la littérature cubaine, mais le voyage, par exemple, à l'Afrique, il entrait avec une force soutenible. Par exemple, le voyage ou le phénomène de la migration aux États-Unis et à l'Europe, par exemple, la création d'une grande communauté cubaine à l'extérieur, il est très important pour la littérature cubaine contemporaine et il activait beaucoup de thèmes comme les voyages, la migration même, l'identité, les phénomènes de la langue, de la nation ailleurs, comment les construire. Depuis la littérature, il y a un monde de relations solidaires, un monde de fondations dans l'imaginaire collectif.
Merci aux écrivains André Bansard et Ariel Camejo qui participent au 4e congrès des écrivains de la Caraïbe en Guadeloupe. Conchita Penilla, Pointe-à-Pitre pour RFI.
Le journal de l'Outre-mer, tout de suite avec nos confrères du réseau Outre-mer Première. Edwige Saint-Thomas, bonjour.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Alors en Martinique, les communes du centre sont toujours privées de bus.
Les dépôts de la compagnie Foyalaise des Transports et ceux de ses partenaires sont bloqués depuis mardi. Le syndicat CSTM conteste le licenciement pour faute de 2 employés. Hier, les négociations n'ont pas abouti. En attendant, les usagers tentent de prendre leur mal en patience. Martinique Première, Christine Cupit, reportage.
Un centre-ville quasiment désert, plutôt inhabituel à cette heure de grande affluence. Pas un bus en circulation et aucun non plus aux abribus. Seuls quelques usagers se sont postés sur la place de l'asile en face du marché de la mutualité en désespoir de cause.
J'attendais un bus mais j'avais oublié qu'on était en grève en fait, donc ça m'embête beaucoup. Je ne sais pas comment je vais rentrer chez moi.
Il n'y a pas de bus. Je suis chez moi. Comme j'avais mes factures à payer, obligé de descendre avec ma soeur. C'est désolant.
Cette grève sur le réseau Mosaïque impacte de nombreux usagers et notamment les étudiants du campus de Chelcher déjà en période d'examen.
Normalement, je parle au Mosaïque mais avec la grève qu'il y a là, c'est un peu difficile d'arriver pour les examens à l'heure, etc. c'est problématique.
On devrait vraiment arrêter ça, parce que là, ça pénalise tout le monde, il y a des examens, et c'est vraiment arrêté.
Direction la Guyane à présent, au village Favard, sur la commune de Roura, un village de 140 habitants, dépourvu d'eau courante, d'eau potable, des robinets sont disponibles dans la commune, mais l'eau n'est pas aux normes. Pour mettre fin à cette situation, un chantier a été lancé hier matin, cette eau potable robinet, c'est un rêve pour les habitants qui pour l'instant se débrouillent. Le reportage de Laurent Marot de Guyane Première.
Au village Favard, l'eau coule à partir de trois bornes fontaines alimentées par un captage sur une crique en forêt. L'arrivée de l'eau courante au début des années 2000, grâce à la mairie de l'époque, avait été un progrès. Mais faute de suivi suffisant du réseau, les problèmes sont fréquents. Francis Lucas, un habitant.
Parfois, quand il y a une forte pluie, il n'y a plus d'eau. Sinon, l'eau devient tout rouge, l'eau est sale. Parfois, ça donne des maux de ventre. Donc, ils sont obligés d'aller récupérer les plantes médicinales ou des écorces d'arbres pour pouvoir faire le traitement. Et puis après, donc, cette eau, il va falloir le bouillir après pour pouvoir le boire.
Il y a bien un système de filtration par chloration, mais l'isolement rend difficile le suivi par la mairie et l'eau n'est donc pas aux normes. Depuis le décès d'un nourrisson en 2008, les mamans du village donnent à leur bébé de l'eau en bouteille. La mairie a acheminé un temps des jerrycans d'eau sur place. D'ici septembre, le village devrait enfin avoir l'eau potable.
Et le chantier va coûter 400 000 euros. Et puis la qualité de l'air en Guadeloupe n'est pas bonne en ce moment. Le niveau d'alerte orange a été déclenché hier par la préfecture. Il est passé au rouge ce matin. Pollution liée à la présence de brume, de sable sur l'archipel, mais aussi à la combustion de carburant et aux activités industrielles. Excellente journée.
Edwige Saint-Thomas du réseau Outre-mer Première, merci à vous et bon week-end. On se quitte avec un peu de musique et un artiste français à l'honneur, Bigaranx, figure reconnue de la nouvelle génération reggae. Il est en concert au Havre ce soir pour présenter son troisième album, Nightbird. Influencé par la culture jamaïcaine, ce tourangeau a développé son propre style, mêlant reggae et hip-hop. À découvrir tout de suite sur RFI, le titre DJ for the Night, tiré de son dernier opus.